Bienvenue à Parlons des cancers du sang, un balado de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Ce balado relie des personnes qui sont touchées par un cancer du sang à des ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilisent. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu puis il n'y a pas de réponse facile. On est là pour vous apporter les informations dont vous avez besoin, pour vous aider à comprendre chaque étape de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Stéphanie et je serai votre autre invitée pour l'épisode d'aujourd'hui. Un peu avant mes 25 ans, donc en octobre 2019, j'ai appris que j'étais atteinte d'un lymphome Hodgkinien de stade 2. Aujourd'hui, presque un an est passé depuis mon dernier traitement de chimiothérapie. Je suis officiellement sur la voie de la rémission, tout comme notre invitée d'aujourd'hui, Janie, 30 ans. En 2017, Janie a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë, mieux connu sous le nom de LLA. Conjoint et père dévoué, Janie a rencontré certains défis en lien avec la maladie. Aujourd'hui, il va nous parler de son expérience, plus spécifiquement en lien avec la paternité, la fertilité et la sexualité. Bonjour Janie, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu?
Bonjour, merci. Je vais très bien. Dans quelques jours, ça fera un an que j'ai arrêté mes traitements, fait que tout se passe vraiment pour le mieux et puis en pleine forme. Donc, c'est une grande satisfaction.
Excellent. Félicitations, presque un an.
Merci.
Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, puis en commençant en fait avec l'annonce de ton diagnostic?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Janie, j'ai 30 ans. Je suis tombé malade en 2017, en septembre exactement, deux, trois jours avant la 27e année. Je suis tombé malade le 15 septembre exactement, suite à une prise de sang que j'ai fait à l'hôpital de l'Enfant Jésus. C'était un vendredi matin, je m'en souviens encore. Et puis le vendredi après-midi, la même journée, l'hématologue de garde m'appelle et puis me confirme que je dois me rendre le plus rapidement possible à l'Enfant Jésus, puis on m'expliquera sur place. Et puis, 5 minutes après mon arrivée aux urgences, effectivement, je rencontre l'hématologue de garde, et puis on m'explique le diagnostic, et puis tout ce qui va s'en suivre derrière. Donc, ça a été un gros choc, parce que j'ai jamais été malade, toujours en pleine santé, et puis dans la fleur de l'âge. Donc, j'ai passé ma première nuit à l'hôpital, puis on m'a laissé retourner à la maison tout le week-end pour préparer mes affaires, car dès le lundi, je commençais les tests, donc tout ce qui était électrocardiogramme, ensuite scanner, etc., TACO. Et puis le mardi, je commençais ponction lombaire, puis après ça, tout le processus de soins, de traitement, donc protocole de Boston pour ma part. Donc, normalement, c'est 2 ans de protocole, mais moi, j'ai fait 2 ans et demi, car la première partie du protocole, qui est l'induction, n'a pas fonctionné autant que l'équipe médicale voulait. Donc, j'ai recommencé une deuxième fois, ce qui fait que ça a retardé la fin du protocole en général. Puis, durant ce protocole-là, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu plusieurs petits problèmes, des neutropénies, donc j'ai dû retourner réhospitaliser en décembre, je suis sorti avant Noël. Donc, suite à ça, en février 2018, j'ai fait une réaction allergique à un certain type de chimio, l'asparaginase exactement. Donc, sur 3 molécules de cette chimio, je suis rendu à la dernière. C'était vraiment, surtout que c'était le type de chimiothérapie le plus efficace pour mon type de leucémie. Donc, on commençait déjà à regarder plusieurs autres options, mais finalement, la troisième a été la bonne. Ensuite, en mars 2018, j'étais en rémission officielle. Donc, j'ai pu attaquer une autre phase du protocole. Et ensuite, en juillet 2018, j'ai eu un petit problème au niveau du foie. Fait que j'ai fait une pancréatite puis des phlébites aux jambes. Donc, j'ai été réhospitalisé 7 jours. J'étais suivi, en plus d'être suivi à l'Enfant Jésus, j'ai été suivi au CHUL pour les maladies lipidiques. Donc, j'avais un programme d'alimentaire spécifique, en plus de tout ce qui était médication autre. Et ensuite, en septembre 2018, j'ai commencé ma phase de maintien pour terminer en mars 2020 les traitements. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai terminé. Et puis, grosso modo, j'ai fait septembre, novembre, décembre hospitalisé en 2017. Puis après ça, j'ai commencé chaque vendredi, donc présent à l'Enfant Jésus pour recevoir mes traitements en externe. Donc, c'était mon quotidien de 2017 à 2020, c'était ça. Donc, aujourd'hui, tout va bien et j'ai retrouvé la santé.
Bon, ce sont des bonnes nouvelles au final.
Ouais, ça a bien été.
Ouais, bon, super, excellent. Dans ton cas, c'était assez jeune là, quand tu as eu ton diagnostic. Puis de ce que j'ai compris, tu avais déjà un enfant de 2 ans, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Gabriel, quand je suis tombé malade, il avait 2 ans. Et puis, ça a été une grosse adaptation. Mais je suis content d'être tombé malade à cette époque-là par rapport à Gabriel parce qu'à 2 ans, bon, il va pas à l'école. Donc, il se rend moins compte aussi de la problématique à la maison. Vu qu'il n'allait pas à l'école, j'avais moins de soucis à me faire au niveau de l'apprentissage, au niveau de la relation que j'aurais pu avoir avec lui, son comportement aussi, parce que bon, c'est un gros changement pareil au niveau famille, au niveau organisation de la famille. Donc lui, bon bah, papa est pas là, on se voyait dans la chambre, on se voyait pas en direct, mais on se voyait par Messenger ou Skype là. Donc pas le choix, s'il avait pas le droit de venir me voir en chambre. Donc ça a été, au début c'était un peu dur parce que bon, pas habitué à ça, puis l'effet là, du diagnostic aussi là, donc j'avais ça aussi à gérer, mes propres émotions, et puis savoir combien de temps il me restait à vivre ou autre, parce que bon bah ça reste un cancer agressif pareil, et puis bon bah je sais pas ce que demain sera fait là, mais donc ça me travaillait un peu, mais non, pour lui il y a aucune différence. Même quand je suis retourné à la maison, on lui a expliqué avec des mots assez simples que j'avais des bobos, que des fois, fallait pas faire trop de bruit parce que j'avais besoin de me reposer, de pas, vu que j'étais en orthopénie, je pouvais pas lui faire nécessairement de gros câlins ou autre parce qu'avec la garderie, je savais pas quelle bactérie, virus il pourrait me ramener. Donc ça aussi, ça a été une gestion. Expliquer ça à un enfant de 2 ans, bah c'est pas facile tous les jours, donc beaucoup de pédagogie avec ma conjointe, et puis ça s'est, honnêtement ça s'est super bien passé. Exemple tout bête, quand je voulais me reposer, bah il allait jouer dans le sous-sol, dans sa salle de jeu, et puis il comprenait que bah, papa a des bobos, donc on a réussi à s'adapter, et puis même aujourd'hui il le sait que j'ai eu des problèmes. On n'est pas rentré vraiment trop dans les détails. Il a vu sur des photos que bah, j'avais perdu mes cheveux, que mais ça pas non non justement ça va lui, je pense qu'il va, ça va lui servir plus tard à comprendre certaines choses, et puis je pense qu'il a, même malgré son jeune âge, je pense qu'il a pris plus de maturité là-dessus aussi là. C'est intéressant à voir aller. Ouais,
bon, c'est intéressant effectivement. Je me demandais que moi de mon côté, là, dès l'annonce de mon diagnostic, on m'a référé en clinique de fertilité. Toi, tu avais à peu près le même âge que moi en ce moment et à l'époque. Puis tu avais déjà un enfant. Est-ce que ça a été un réflexe de ton équipe de soins d'être référé en fertilité quand même? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus tard? Donc, je me demandais de ton côté comment ça s'était passé là, à ce niveau-là.
Ben en fait, à ma grande surprise, parce que au tout début du diagnostic, moi, j'ai pas été interpellé par ça parce que j'y connaissais absolument pas. Puis pour ma conjointe qui est pareil, infirmière clinicienne à l'Enfant Jésus, pour elle, l'effet du diagnostic, ça a été comme l'effet d'une bombe, parce que bon bah ça, un enfant de 2 ans, plus après toute la gestion qu'il y avait à côté, elle n'y a pas pensé faire un test de fertilité parce que. Au niveau des traitements, c'est sûr que c'est agressif, radiothérapie, chimiothérapie. Donc, on a su par après qu'est-ce que ça pouvait avoir comme effet. Mais au tout début du diagnostic, personne ne me l'a proposé. Ça a été un oubli là-dessus. Donc, par chance, bah, moi, ça m'a pas trop affecté parce que bon, on en voulait qu'un enfant. Mais dans la démarche plus médicale et après ça. L'expérience avec le patient, bon bah c'est sûr qu'il y a eu un manque là-dessus. Bah, ça a plus affecté ma conjointe que moi, mais comme là au tout début on n'y a pas pensé, c'est après qu'elle m'a dit avec l'infirmière qui était là, est-ce qu'on t'a fait un test de fertilité? Bah non, personne me l'a proposé, puis personne a soulevé la question. Puis il y avait tellement avec ma conjointe, tellement de questions, tellement de choses à penser qu'à ça. Ça a été un manque, un oubli. Donc, c'est sûr que pour les personnes qui nous écoutent là, qui sont au tout début d'un processus de cancer, de traitement ou autre là, c'est une question à soulever puis à poser à son équipe médicale. Là. Donc, ça peut servir cette cet oubli que j'ai eu peut servir à d'autres. Donc, c'est, il faut quand même y penser, ouais.
Ouais, tout à fait. Puis c'est important là, de commencer le processus avant d'embarquer aussi dans les traitements de chimiothérapie. Là,
pour... Ouais, exact. Parce que dans mon cas, ben, moi j'ai eu de la chimiothérapie, j'ai aussi de la radiothérapie au cerveau. J'ai eu 10 traitements au cerveau. Donc la radiothérapie et la chimiothérapie, c'est sûr, c'est des gros agents qui vont traiter, c'est sûr, les cellules cancéreuses. Mais il y a aussi des effets secondaires reliés à ça, notamment au niveau de la fertilité, après ça la fatigue, les émotions, etc., changement physique. Donc c'est pas pendant le traitement qu'il faut y penser, c'est vraiment avant là, dès l'annonce du diagnostic. C'est sûr, il y a plusieurs questions qui vont rentrer en ligne de compte là, mais ça c'est pour les gens qui veulent avoir d'autres enfants derrière, c'est vraiment important là. C'est parce que les traitements derrière qui vont suivre là, ça va être c'est sûr, souvent, tout dépendamment de la personne, là, ça va être assez intense.
Puis, est-ce que tu as une idée, Janie, aujourd'hui, ta fertilité? Est-ce que tu as passé des tests par après ou tu...
Non, j'aurais pu. Même là encore, je pourrais si je voudrais, mais vu qu'on en voulait qu'un enfant et puis que, bon, bah, Gabriel est rendu maintenant à 5 ans, il va avoir 6 ans cette année. Ça fait une grosse différence d'âge entre deux enfants, selon notre point de vue avec Catherine. Je pousserai pas plus les démarches là. Si j'ai un enfant, il est en santé, tout va bien. Donc non, je le ferai pas. Mais avoir eu un deuxième enfant, oui, peut-être que là j'aurais fait les démarches exactes. Ouais.
Ok. Puis ta conjointe là, t'en parles, puis elle semble avoir été vraiment un support important pour toi là. Je pense aux gens qui nous écoutent, à leur famille, qui les accompagnent là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu, à savoir, là, qu'est-ce qui était le plus aidant pour toi en lien avec le support qu'elle t'a apporté?
Ben, en fait, Catherine, ça a été vraiment le gros support, aussi bien moral, parce que, enfin, dans plusieurs domaines, c'est moral, parce que bon, elle venait me visiter à l'hôpital. Donc, c'est sûr que quand je suis tombé malade, pas le choix d'être en arrêt de. En congé de maladie, donc elle est l'infirmière clinicienne de nuit. Elle occupe un poste d'assistante chef, donc fallait se réorganiser aussi au niveau de son travail. Donc elle a eu un congé pendant plusieurs mois. Donc elle venait me voir à l'hôpital, même si je dormais, j'étais tellement fatigué par les traitements que je passais mes journées à dormir. Donc elle était quand même présente là à côté de moi. Elle m'a aidé à prendre mon bain, à préparer mes collations. Parce que ce qu'il faut savoir, pour le département hémato-onco, l'enfant Jésus, on a quand même une petite cuisine sur notre département. Fait que chaque patient, on pouvait emmener nos propres collations avec notre nom, numéro de chambre, etc. Donc, c'est ça. Fait qu'elle m'a amené mes petites collations que moi, j'avais envie. Fait qu'on mangeait, je mangeais mes émotions à cette époque-là. Là. Donc après ça, c'est un support médical parce que veux pas, je suis chanceux qu'elle soit dans ce domaine-là. Fait que pour faire le pilulier, parce que j'avais une quantité astronomique de médicaments, j'ai eu du fragment, fait que pour me piquer ou autre, celle qu'il faisait. Ensuite, gérer mes effets secondaires, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé.
De quelle façon, par curiosité, elle s'y prenait? Tu sais, par exemple, si t'étais vraiment émotif ou si ça allait pas, était-elle plus comme une oreille ou elle se retirait à te laisser vivre un peu tes émotions?
Non, elle a toujours été là. Elle savait que, elle me connaît aussi. Elle savait que des fois, j'avais besoin d'être seule. Mais sinon, non, j'ai pas hésité à me confier à elle ou, mais à force de vivre ensemble, elle comprenait juste du regard que ouais, ça allait pas. Que ça allait pas, et puis que soit il fallait me laisser tranquille pour me reposer, ou soit elle savait qu'il a besoin de soutien, fait qu'elle était présente là. Puis ça, c'est toutes les affaires du quotidien que je ne pouvais pas faire. Elle était là à mes côtés, là, comme des fois, j'étais tellement fatigué que j'avais après certains traitements, j'avais de la difficulté à marcher. Donc on allait prendre une petite marche juste pour me réhabituer à remettre la machine en route. Puis aussi à m'emmener au traitement, si je veux pas. Les tout début, bon, l'hôpital, c'était sur place. Mais après ça, quand j'ai commencé la clinique externe, j'étais incapable de conduire. Hein. J'avais des problèmes de concentration, la fatigue. Puis, bah, c'est ça, gérer les effets secondaires. Il y a certaines chimios où, dès que l'infirmière me retirait le cathéter, fallait que j'ai un vomi-bag à côté. Là. Fait que même chose à la maison. Fait que c'est vraiment occupé de tout, de tout, de tout, de tout. Et puis, surtout, ce qui m'a soulagé, c'est que je sais que j'étais entre bonnes mains, aussi bien à l'hôpital que à la maison avec elle, parce que fallait s'occuper de la maison, fallait s'occuper de Gabriel, puis à un moment donné, bah, il a fallu retourner au travail pour elle aussi. Donc moi, du jour au lendemain, j'ai dû appréhender ça, mais on s'est comme fait une routine à deux, et puis on s'est comme partagé les tâches selon ma fatigue, selon ma condition. Fait que non, on a formé vraiment une très très belle. On forme encore une très belle équipe là, mais la maladie, ça rapproche. Bah, dans notre cas, ça nous a encore beaucoup plus rapprochés et puis soudés là. Ça c'est clair. Ouais.
Puis en tant que couple, de quelle façon les traitements ou le diagnostic de cancer vous a affecté? Là, on comprend un peu la dynamique familiale, la façon dont vous avez géré tout ça en tant qu'équipe à trois, mais là à deux, à deux, quels ont été un peu là, les défis que vous avez rencontrés, puis comment vous vous êtes adapté en fait à tout ça?
Ben en fait, Catherine, quand je suis tombée malade, elle savait tout ce qu'elle allait s'en venir à peu près là, parce que moi, non, j'étais vraiment dans le néant total. Je savais pas où ça allait mener. Mais bah oui, un peu. On se pose toujours les questions de base là quand on soit un cancer. Je me souviens encore. C'était combien de temps il me reste à vivre, puisque c'est héréditaire. Ça, je pensais tout de suite à Gabriel. Puis bon, personne n'a su me répondre. Tout de suite. Non, en fait, il faut faire des tests. Il faut voir sur le long terme, etc., etc. Mais elle, elle voyait plus l'aspect traitement, tout ce qui était effet secondaire, après ça, gestion de la maison, gestion du travail, etc. Mais ça nous a vraiment, comme je disais tantôt, beaucoup plus soudés. Après ça, la vie de couple en tant que telle, oui, on a vu une certaine différence parce que, c'est dû surtout au traitement chimio et puis, au traitement général chimio et puis radiothérapie parce que, veut pas, on vit quand même de grosses émotions, la peur, l'anxiété, des fois la tristesse ou même de la colère, mais on arrive à se gérer quand même à deux. Mais le changement physique dû au traitement, chimiothérapie, radiothérapie, la médication, exemple la cortisone, c'est quand même quelque chose pour vrai. Ça déforme un physique, la cortisone. Ça. Pour avoir une vie couple, faut vraiment s'aimer, malgré le changement d'état physique, malgré la maladie. Puis ça, Catherine, il y a eu aucun changement. Honnêtement, on a réussi à garder des relations pareilles. C'est sûr que c'est passé par la communication, parce que à certains moments, j'avais mal aux articulations, j'avais mal un peu partout, dû au traitement encore une fois, mais non, ça, on a su s'adapter, on a su se parler, s'écouter, et puis on a profité comme avant là, différent. C'est sûr que c'était différent là, mais non, on a gardé le même amour là. C'est une expérience différente, mais tout aussi enrichissante là, bien au contraire.
Ouais. Puis pour les auditeurs qui nous écoutent là, est-ce qu'il y a eu Il y a des précautions à prendre, le supplémentaire, par exemple, pour les relations sexuelles. Donc,
ouais, exactement. Ça, c'est mon médecin au tout début, on lui a posé la question, tu sais, comment on pourrait faire, comment ça va se passer la suite là-dessus, sur les relations sexuelles ou autres. Là, mais il m'a dit, c'est simple, il dit, protégez-vous parce que ta chimio est tellement toxique que c'est dangereux pour ta partenaire. Donc j'étais cytotoxique pendant plusieurs mois là. Donc fallait mettre un préservatif, pas le choix. Sinon Catherine aurait eu des problèmes par la suite là. Mais c'est ça c'était une autre adaptation à avoir, mais on s'en accommode là, honnêtement, c'est pas ça a pas été un gros problème. Ça a pas été ouais non. Ça a été.
Excellent. Mais ça, on encourage vraiment les auditeurs à en parler là, avec leur oncologue. Là. Souvent, c'est des sujets là, qui sont pas, malheureusement, là, qui sont pas vraiment abordés. Là. Comme pour ma part, on m'aurait mis un pamphlet avec un petit paragraphe de 4-5 lignes. Donc,
ben, c'est ouais. Ça, parce qu'en fait, quand on tombe malade, on nous reçoit, on nous donne une quantité d'informations sur bah, les différentes fondations, les associations, qui appeler, bref. Mais la sexualité ou la fertilité, on n'en parle pas ou très peu, soit parce que bah, les gens sont gênés ou comme un sujet tabou, ou alors comme dans mon cas, bah, on passe aux choses parce qu'on pense que c'est pas un sujet nécessairement important, parce qu'on veut répondre à d'autres questions qui nous semblent beaucoup plus importantes là. Mais non, en fait, ça fait partie du processus de la maladie là. C'est faut pas s'en cacher, puis faut vraiment en parler là. Surtout que ils sont formés pour ça, c'est-à-dire ils ont ça fait partie de leur quotidien aussi de répondre à ce genre de questions là. Puis s'ils ont pas la réponse, ils vont nous transférer à une équipe, à des personnes qui eux vont nous répondre là. C'est vraiment pas un souci. Ils ont toutes les ressources à leur main pour aiguiller les gens là. Donc oui, c'est sûr pour les auditeurs là, c'est faut pas hésiter à en parler. Faut vraiment pas là. C'est vraiment important.
Oui, autant avec l'oncologue qu'avec le partenaire là, parce que.
Ouais, exact. Non, c'est vraiment dans mon cas, c'est vraiment une affaire de communication là. C'est vraiment à discuter avec son partenaire parce que c'est à deux, selon la maladie, c'est on peut trouver des solutions. La partenaire doit s'adapter aussi aux malades, et puis l'inverse aussi. Hein, parce que c'est quand même un changement, oui, pour la personne malade, mais c'est aussi un gros changement pour la partenaire. Hein, ça c'est sûr, ça se vit à deux là, ce genre de choses là. Donc c'est ça.
Non, effectivement, là, dans mon cas. J'aurais probablement dû suivre tes conseils et adopter la communication, les choses qui a été un peu moins facile sur cet aspect-là. Donc, je pense que c'est ça, ça crée des attentes de part et d'autre. On veut pas trop décevoir non plus l'autre. On veut, fait que bon, effectivement, la clé, la communication.
Oh, exactement. C'est ça. C'est tu dis de pas décevoir la personne, mais oui, c'est ça. C'est quand avant la maladie, t'es habitué à certaines choses en amour, et puis que bah, du jour au lendemain, tu te retrouves avec une personne défigurée à la maison, dans le sens médication.
Là, oui.
Je fais référence, mettons, à la cortisone, là, surtout dans mon cas. Puis bah, des douleurs, c'est des douleurs. Après ça, c'est bah, des effets secondaires, la fatigue, les maux de tête. C'est moi, avec la leucémie, c'était rien d'apparent à part le changement bah, physique dû à la médication. Mais si je pense à l'inverse, une femme qui est qui atteint un cancer du sein ou autre, même un homme aussi qui des maladies où tu dois te faire amputer un membre ou autre, là, ça peut peut-être rebuter certaines personnes, changer la dynamique de couple, etc. Donc c'est pour ça que communication et puis c'est ça là, c'est vraiment important.
Puis j'ai une question par curiosité là, parce que souvent quand on parle de traitement de chimiothérapie là, moi on m'avait dit là, tu vas voir Stéphanie, une baisse de libido, etc. Je me demandais, est-ce que c'est de cette façon là que est-ce que tu as vraiment ressenti une baisse au niveau de ta libido, ou ça a vraiment, tu sais, c'est sûr que bon, la fatigue, comme tu mentionnais, les changements physiques probablement font en sorte que le désir d'avoir des relations sexuelles est peut-être moindre, mais est-ce qu'au niveau de la libido, est-ce que tu sentais que ça l'avait affecté là, cette composante là, ou plus ou moins, ou
dans mon cas non, c'est plus la fatigue qui faisait en sorte que bah des fois c'était non là, très clairement là. Mais ce qui est vrai, c'est que la radiothérapie ou la chimiothérapie peut jouer sur le taux d'hormones. Ça, c'est vrai. Sur le long terme, ça peut jouer sur le taux d'hormones. Fait qu'après ça, c'est sûr que bon, bah, y a d'autres effets pervers à ça. Là. Mais non, moi, c'était plus la fatigue qui. Là-dessus, Catherine, c'est bah encore là. On s'écoutait là, elle voyait bien que bon, il est déjà fatigué par tout ça. Je ne veux pas lui en mettre une couche derrière. Là, c'est surtout que c'est ça. Fait que, on a tous les deux, avec ma blonde, un bon humour. Fait que des fois, on tournait ça un peu en dérision pour dédramatiser la situation là. Mais sais, encore là, on en revient à ces communications-là.
Effectivement.
C'est ça.
Tout à fait. Souvent, on pense aux effets négatifs, mais qui est en fait en lien avec le cancer, mais on peut quand même affirmer là, que la maladie nous apporte un peu de positif, là, que ce soit par des prises de conscience, l'appréciation de certaines choses, en fait, simples de la vie. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu es en mesure de dire aujourd'hui que le diagnostic de cancer t'a apporté un peu de positif ou a fait de toi peut-être une personne qui a évolué sur certaines choses? Ou j'aimerais ça que tu nous partages ton opinion là-dessus.
Quand je suis tombé malade, c'est sûr que beaucoup de choses ont rentré en ligne de compte, là, mais j'ai beaucoup appris à relativiser ou à prendre du recul. Mais je pense que dans mon cas, le naturel, tu sais, on revient un peu au galop, là. C'est, j'ai peut-être ma façon à moi de tirer un trait sur ces 3 années. Mais j'ai quand même appris beaucoup de choses sur moi-même, ça c'est vrai. Je suis passé par des moments très difficiles, surtout à l'hôpital, là. Les traitements en chambre, c'était quand même assez long. Surtout que je pouvais pas sortir ou autre, fait que j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce mental-là. Donc, ça me sert encore aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup. Ce qui m'a vraiment plus marqué, c'est que détaché de tout ça, c'est que j'ai appris vraiment à relativiser. Tous les petits irritants, des fois du quotidien, il y a toujours des choses qui vont m'énerver, mais des fois, je relativise. Mais on apprend des belles choses. Surtout que il y a eu pas mal de solidarité dans mon cas quand je tombais malade pour Catherine. Donc ça, puis je suis encore, c'est des vrais amis là. Quand je tombais malade, ils sont venus à la maison, nous aider, etc. Entretien du terrain, des choses toutes simples, mais qui font en sorte que j'ai encore plus apprécié leur compagnie. Donc je pense qu'il y a des amitiés qui se sont encore plus renforcées. Donc ça, c'est, j'ai beaucoup apprécié. Donc, mais non, il y a beaucoup de choses que j'ai appris quand même. Je sais pas dans ton cas, là, mais chaque personne est différente, c'est sûr. Mais c'est toujours quelque chose d'important. Donc, la solidarité que j'ai eue auprès de mes proches aussi, ça a été super. Ça.
Je pense que ça fait en sorte qu'on se rapproche de certaines personnes puis qu'on... Comme tu dis, on apprécie davantage leur présence. Puis au contraire, moi, dans mon cas, pour d'autres personnes, ça a créé une certaine distance. Puis c'est bien correct comme ça. Puis aujourd'hui, ça fait juste en sorte que mon cercle d'amis, c'est un petit peu plus soudé. Puis ces gens-là ont comme plus d'importance dans ma vie là, comparativement à avant. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ouais. Non, c'est ce que tu dis, c'est vrai. J'ai quand même aussi quelques personnes, je sais pas si... ils sont à l'aise ou pas avec la maladie, là, mais c'est vrai que j'ai eu certaines personnes où du jour au lendemain, j'ai plus ou moins eu de nouvelles, voire même pas du tout. Ce que tu dis, c'est un bon point, c'est vrai. Est-ce que, puis j'ai jamais posé la question pourquoi, là, mais est-ce qu'ils sont moins à l'aise avec la maladie, parler à quelqu'un qui est malade ou autre, je sais pas, mais.
Effectivement. Mais aussi, tu réalises, tu sais, qu'il y a certaines personnes qui, non, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Janie. Puis je pense aussi que involontairement, en tout cas moi, dans mon cas, là, ça l'a vraiment fait en sorte que il y a une certaine distance naturelle qui s'est créée avec des gens. Je sais pas pourquoi. Ces gens-là me donnaient tellement d'attention que moi, ça venait un peu, tu sais, m'étouffer. Fait que je sais pas là, pour toi si c'était quelque chose que tu as vécu, là, mais dans mon cas, là, c'était. Fait que on dirait que naturellement, là, j'ai juste créé cette distance-là avec ces personnes-là. Puis ben aujourd'hui, ça reste des amis, mais tu sais, sans plus, là. Donc c'est encore une rétrospection que je dois faire là, par rapport à comment j'ai vécu cette expérience-là, là. Mais on dirait que c'est ça, dans des fois quand on est comme trop... moi, dans mon cas, je me sentais pas nécessairement, tu sais, malade. Fait que le fait de voir autant de gens, les gens étaient plus alarmés que moi quasiment, là, tu sais. Fait que des fois, ça devient un peu aliénant, là, mais...
Ouais, non, mais c'est même moi, c'est dans la vie de tous les jours, des fois, les gens voulaient en faire plus.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce que moi, je voulais? Non, tu sais, j'ai beau être malade, hein, mais tu sais, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, là, je suis capable de faire mes affaires aussi. Là,
exactement.
Non, ça aussi, c'est, oui, je suis d'accord avec ça. Là. Mais non, tu sais, j'avais quand même gardé un minimum d'autonomie, là, mais c'est toujours drôle là, c'est des fois non, c'est bon, c'est correct là, c'est je vais m'en sortir là.
Oui, c'est ça. Ouais. Ah non, je suis d'accord avec toi. Hey, un énorme merci Janie là d'avoir partagé ton expérience avec nous, pour ta transparence aussi. Si les auditeurs ont des questions sur comment accompagner une personne atteinte d'un cancer du sang ou ont besoin d'aide pour naviguer dans leurs propres expériences avec un diagnostic de cancer du sang, on vous encourage à contacter le chef des services à la communauté de votre région. Donc visitez le cancerdusang.ca pour communiquer avec nous. Merci à la Fondation TELUS pour un futur meilleur d'avoir généreusement parrainé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.
Merci d'écouter la série de balados « Parlons des cancers du sang » de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Vous pouvez nous trouver partout où vous vous procurez vos balados préférés. Assurez-vous de vous inscrire et de laisser un commentaire. Si vous avez des idées de balado, n'hésitez pas à nous en faire part. Envoyez votre courriel à canadainfo@commercialls.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada se consacre à financer des recherches de pointe et à appuyer les personnes touchées par un cancer du sang. Pour accéder à des ressources comme des fiches pratiques et des webdiffusions, visitez cancerdusang.ca.